France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter et bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 3 septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un plan pour l'avenir, 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française durement touchée par la crise du coronavirus. Le gouvernement dévoile ce matin les détails de ce plan, les grandes lignes dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
Un procès peut-il se tenir normalement avec des magistrats, des avocats et des accusés masqués? Question posée hier à l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Aux États-Unis, Joe Biden se décide à sortir de chez lui et va rencontrer la famille de Jacob Blake dans le Wisconsin. Et puis voyage au bout de la nuit avec le nouveau roman de Laurent Mauvignier.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Un film pas comme les autres. Adolescente montre la vie de deux copines de 13 à 18 ans qui habitent Brive. Pendant 5 ans, la caméra a capturé leurs rires, leurs larmes, leurs complexes, leurs engueulades, leurs angoisses. Un documentaire étonnant qui dessine un portrait passionnant de la France. Le réalisateur et ses deux héroïnes seront avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. Le grand entretien de la matinale. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Avec Lionel Jospin, ancien Premier ministre, il publie Un temps troublé aux éditions du Seuil et vous pourrez dialoguer avec lui. 01 45 24 7000.
France Inter.
Un plan en trois parties. Un premier tiers de l'enveloppe, 30 milliards d'euros destinés à accélérer la transition écologique. Un deuxième, 35 milliards d'euros pour renforcer la compétitivité des entreprises. Et un dernier tiers, 35 milliards pour soutenir l'emploi et la formation. Les détails de ce plan de relance, 100 milliards d'euros sur 2 ans, seront donc dévoilés à l'issue du Conseil des ministres par Jean Castex. Les grandes orientations sont déjà connues. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Transport, rénovation, relocalisation, réindustrialisation, innovation, les défis sont nombreux.
Oui, il s'agit d'un plan résolument tourné vers les entreprises. Sur les 100 milliards, 20 correspondent à des baisses d'impôts dits de production, la taxe foncière sur les locaux industriels notamment. Il y a aussi 3 milliards prévus pour injecter des fonds propres dans les entreprises en difficulté, plus les aides à la relocalisation de production en France et le soutien de filières d'avenir comme l'hydrogène ou l'intelligence artificielle. Ça, c'est le volet compétitivité. Il y a ensuite le volet transition écologique, où là, l'État met des moyens pour verdir l'économie, une trentaine de milliards également, dont 11 affectés au transport propre, pour moitié au ferroviaire, et 7 à la rénovation énergétique des bâtiments privés et publics. Enfin, dernier tiers du plan, celui sur les compétences, l'emploi et la formation, gros effort en direction des jeunes, près de 7 milliards qui incluent notamment les primes à l'embauche pour les entreprises qui en recruteront, et quasiment autant pour ce que le gouvernement appelle son bouclier anti-chômage, avec notamment le dispositif d'activité partielle de longue durée qui a vocation à prolonger le chômage partiel pour les entreprises en difficulté.
Merci Fabien Cazot pour ces détails. Un plan donc destiné à relancer l'économie après la crise liée au Covid et à préparer l'économie de demain, la France de 2030, comme l'a résumé Emmanuel Macron. Un plan qui s'appuie sur l'offre en soutenant les entreprises et l'investissement. Vous l'avez dit, quand plusieurs de nos voisins européens, notamment l'Allemagne, ont choisi de soutenir plutôt la demande. Alors qu'attendent concrètement les petites et moyennes entreprises de ces annonce. Mathilde Vinceneux a posé la question au patron d'une entreprise d'événementiel basée à La Ciotat.
Le carnet de commandes est plein et pourtant l'entreprise de Frédéric est quasi à l'arrêt. D'habitude, ses 11 salariés travaillent pour installer tentes, gradins et scènes pour des grands événements. Mais là, tout a été annulé.
On a perdu 70% de notre chiffre d'affaires, qui représente plus d'1,5 million d'euros. J'ai dû mettre tout mon personnel au chômage partiel. Donc c'est assez catastrophique et assez déprimant.
Alors pour l'aider à remonter la pente, le gouvernement dans son plan de relance a prévu de baisser de 20 milliards d'euros les impôts de production. Une mesurette, répond Frédéric, si l'on regarde le cas de son entreprise.
Ça représente quelques milliers d'euros, peut-être 10 000 euros. C'est pas du tout l'enjeu par rapport aux pertes qui sont évoquées. C'est un pas, mais ça me paraît pas être la priorité. Par rapport notamment à l'exonération de charges.
L'exonération de charges, le chômage partiel prolongé, voilà ce que veut Frédéric, maintenir les mesures d'urgence pour survivre.
Nous, on n'est pas là pour être perfusés. Si demain matin on pouvait retravailler, je vous donne un exemple. Moi, j'ai de quoi faire 15% de croissance par rapport au chiffre d'affaires l'année dernière, sauf que je ne peux pas travailler. Il faut m'accompagner pour que je puisse continuer à sauvegarder ces emplois-là jusqu'à ce qu'il y ait une vraie reprise.
Difficile donc pour lui de se retrouver dans ce plan qui prépare l'économie de demain, celle de 2030, alors qu'il a déjà du mal à voir au-delà des 2 prochaines semaines. La Ciotat, Mathilde Vince de France Inter.
Un plan baptisé tout simplement France Relance et dans la foulée, le retour d'un haut commissariat au plan. Le premier avait été créé après-guerre, puis supprimé 60 ans plus tard. Et c'est François Bayrou, le président du Modem et proche d'Emmanuel Macron, qui sera nommé officiellement aujourd'hui.
Il est 7h05, Agnès, une audience sous strict protocole sanitaire.
Garder le masque, c'est la consigne martelée hier par le président de la Cour d'assises spéciale de Paris à l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. 11 accusés dans le box et une difficulté soulignée par tous, celle de juger à visage couvert. Charlotte Piret.
C'est la toute première chose que le président de la Cour d'assises a tenu à rappeler en préambule de ce procès historique. Le port du masque est obligatoire, sans dérogation possible. Et si certains avocats ont tenté de s'en affranchir dès leur première prise de parole, le rappel à l'ordre ne s'est pas fait attendre. Je ne veux pas qu'on devienne un cluster, a martelé le président Régis Dejorna. Mais même pour les plaidoiries, tente un avocat. Oui, insiste le président. Et vous entendez interroger les accusés masqués, s'inquiète une de ses consœurs de la défense. Oui encore. Vous allez donc juger un homme dont vous ne voyez pas le visage. Pour Maître Beryl Braun, c'est impensable.
Juger un homme, c'est essayer de le connaître, de le comprendre. Comment voulez-vous connaître quelqu'un si vous entendez à peine ce qu'il vous dit ? Les expressions ne passent pas. Vous ne voyez pas le visage de celui que vous allez juger. Qui est-il ? C'est très difficile et à mon sens, ça pose un véritable problème en termes de droit de la défense, de procès équitable. À mon sens, l'accusé doit pouvoir, s'il le souhaite, pouvoir enlever son masque afin que ses juges le voient.
Mais le président persiste. Déroger au port du masque, c'est prendre un risque pour tout un chacun, explique encore ne pas être décisionnaire sur les questions sanitaires. Moi aussi, je préférerais parler sans masque. Avant de concéder, je vais en référer au premier président. La décision sur ce point est attendue ce matin.
Début aujourd'hui de l'examen des personnalités des accusés, une audience que vous pourrez suivre, rappelons-le, sur notre antenne sur franceinter.fr avec les illustrations signées Mathieu Boucheron. Une plainte déposée contre le professeur Raoult par la Société de pathologie infectieuse de langue française qui regroupe plusieurs centaines de spécialistes. Il reproche au professeur d'avoir encouragé la prise d'hydroxychloroquine sans preuve scientifique de son efficacité. La plainte a été déposée auprès du Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Les sanctions vont du simple avertissement à la radiation définitive. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Des infectiologues qui vont se retrouver en congrès la semaine prochaine à Poitiers. La question du maintien de ce rendez-vous a été largement débattue, Véronique Julia, mais le besoin de se voir et d'échanger a été le plus fort.
Fallait-il prendre ce risque alors que les infectiologues sont déjà très occupés et qu'ils côtoient le virus quotidiennement, sachant aussi qu'en cas de cluster consécutif au congrès, ils feront forcément l'objet de railleries. En termes d'image, ça peut nous coûter cher, explique l'un d'entre eux, qui préfère rester anonyme mais qui trouve l'événement dans le contexte un peu déplacé et même politiquement sensible. C'est effectivement un peu osé, reconnaît un collègue. En même temps, dit-il, on va vivre avec le virus pendant peut-être 2-3 ans, on ne peut pas tout arrêter. D'autant que cette année, plus que jamais, la profession a besoin d'échanger, de partager des informations et les visioconférences qui remplacent certains congrès, ça ne marche pas, explique le professeur Odile Launay, l'une des organisatrices de l'événement.
Parce que les échanges en visioconférence ne sont pas du tout les mêmes. On peut poser des questions par un système de chat sur les écrans, mais c'est pas du tout du même niveau que quand on peut être présent.
Toutes les précautions seront prises, expliquent les organisateurs, avec des masques, des gels hydroalcooliques, le respect des distances, avec un siège vide dans l'auditorium entre chaque participant. Par ailleurs, toutes les festivités, le dîner de gala par exemple, ont été annulées. Les infectiologues expliquent vouloir montrer qu'en respectant les mesures barrières, dont ils sont en quelque sorte les spécialistes, on peut faire en sorte que la vie continue, d'autant que le Covid est loin d'être le seul sujet de leurs préoccupations. La tuberculose, les maladies nosocomiales ou encore le VIH occuperont une grande partie de ce congrès.
Et le contexte n'est pas bon. Plus de 7000 nouveaux cas de contamination enregistrés au cours des dernières 24 heures, 25 décès supplémentaires. Plus d'un million de tests ont été pratiqués au cours des 7 derniers jours, selon la Direction Générale de la Santé. C'était l'objectif fixé par le gouvernement. Le taux de positivité reste à 4,3%. Et aux États-Unis, Donald Trump demande aux gouverneurs des 50 États de se tenir prêts à distribuer à partir du 1er novembre des millions de doses de vaccins, laissant entendre que la recherche est sur le point d'aboutir. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Quant à son rival démocrate à la présidentielle, Joe Biden, il a lui décidé de revenir sur le terrain. Il rencontrera ce soir la famille de Jacob Blake dans le Wisconsin. Notre envoyé spécial à Kenosha, Omar Waman, a pu s'entretenir avec l'oncle de Jacob Blake, ce jeune afro-américain grièvement blessé de 7 balles tirées dans le dos par un policier. Reportage.
La rencontre se tiendra dans un lieu tenu secret, loin de la maison de la famille Blake, devant laquelle Jacob a été grièvement blessé. Selon son oncle Justine, ils ont dû changer plusieurs fois d'adresse ces derniers jours.
On a dû déménager la famille car mon frère a reçu des menaces de mort suffisamment sérieuses pour qu'il décide d'aller vivre ailleurs. Leur vie était en danger, donc on a décidé de changer d'hôtel pour que tout le monde soit en sécurité.
Et s'il était impossible pour la famille de recevoir Donald Trump il y a 2 jours, trop raciste, dit-il, avec Joe Biden, en revanche, la situation est totalement différente.
C'est une bonne nouvelle que Biden vienne nous rendre visite, mais on ne veut plus de promesses, plus d'écrans de fumée, plus de blabla, on veut des actes.
Des actes concrets, en échange d'un appel à voter pour le ticket démocrate Joe Biden, Kamala Harris, qui a besoin du vote afro-américain pour gagner le 3 novembre prochain.
Si les Afro-Américains votent, on peut faire la différence. Mais pour cela, on veut du concret que l'on peut présenter aux familles afro-américaines et leur dire « Sortez, votez pour Biden ».
Faire de cette rencontre avec Joe Biden un tournant dans cette campagne électorale américaine, c'est l'objectif de la famille de Jacob Blake. Kenosha Omar Woman, France Inter.
191 km au programme de la 6e étape du Tour de France entre le Teil et le Mont-Aigoual aujourd'hui, et le maillot jaune est désormais sur les épaules du Britannique Yates. Incroyable scénario hier, le Français Julien Alaphilippe ayant écopé d'une pénalité de 20 secondes pour avoir bu à moins de 20 km de l'arrivée, ce qui est interdit par le règlement. Enfin, un peu de lecture pour terminer. Âme sensible, s'abstenir. Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier chronique l'irruption de la violence dans un hameau tranquille en apparence. C'est l'un des romans remarquables de cette rentrée. Il fait d'ailleurs partie de la sélection France Inter Le Point. Ilana Mourioussef.
On est à la campagne. Dans une gendarmerie, une femme, une artiste peintre, porte plainte. Elle reçoit des lettres anonymes. Chez ses voisins, chaque soir avant de dormir, la mère de famille, Marion, lit une histoire à sa fille. Leur livre s'appelle « Histoire de la nuit », comme celui que nous avons entre les mains. Laurent Mauvignier.
C'est une mère qui veut transmettre à sa fille l'idée de construire sa vie. L'idée de ne pas se laisser impressionner. Et donc les contes, parce qu'on a toujours l'impression que les contes pour enfants sont tous revus à la sauce Disney pour que ce soit gentil, etc. Alors que pas du tout. C'est une grande nuance que je trouve très importante entre divertir et avertir. Les contes ont une fonction. Mais je pense que le roman en a une aussi.
De quoi Histoire de la nuit veut-il nous avertir? Avec ce roman qui maintient le lecteur sous tension, comme un thriller, il décrit l'irruption de la violence, l'irruption de ce qui a été refoulé.
Au début du livre, on est avec des personnages qui ont tous leurs secrets, parce qu'ils essaient tous de construire une vie qui, au fond, n'est pas complètement la leur. Ils essaient de correspondre à ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et en fait, ce qui va se passer avec cette violence, c'est qu'elle va finalement faire éclater tous les faux-semblants et donner à chacun l'occasion d'être au cœur de ce qu'il est vraiment, en fait.
C'est une expérience de lecture incomparable qui fait éprouver au lecteur, souffle coupé, le poids de chaque minute qui s'écoule.
Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier est publiée aux éditions de Minuit.
De Minuit, merci. Évidemment. Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom dans un EHPAD aujourd'hui sur les personnes âgées face au coronavirus.